RFI Actualité.
Vincent Souriau.
Un témoignage aujourd'hui sur l'antenne d'RFI. Après 3 ans d'occupation djihadiste, après 9 mois de combat, Mossoul a été reprise par les forces irakiennes. Et vous vous êtes rendu sur place, Alain Serrier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio aujourd'hui. Vous êtes médecin, vous avez fondé l'organisation Douleurs sans frontières dans les années 1990. Vous revenez donc de Mossoul, qu'est-ce qui vous a mené là-bas ?
C'est la 3e mission sur l'Irak. Au départ, nous étions à Soulaymaniyah, puis ensuite Erbil, Dohuk et donc Mossoul. Ce qui nous a amené, ce qui nous a décidé à intervenir, c'est cette détresse psychologique, cette souffrance morale, cette dépression latente dans les camps de réfugiés qui sont énormes. C'est la population du Kurdistan, c'est 6 millions. Et il y a 1,5 million plutôt de personnes déplacées, puisque c'est les IDP, Internal Displaced People. Et ce ne sont pas donc des réfugiés, mais ils habitent donc le Kurdistan. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent rentrer dans leur village. Ils veulent pas venir à Calais et passer en Angleterre ou aller en Allemagne. Ils veulent retourner dans leur village.
On va parler du sort des réfugiés dans un instant, mais d'abord j'aimerais que vous nous disiez ce que vous avez vu sur place de la ville de Mossoul, de la région, après ces 9 mois de combat.
Alors sur la ligne de combat, nous étions à 600 mètres donc de Daesh qui a tiré le soir où nous sommes partis. Cette ligne est donc très proche et beaucoup moins haute que les autres lignes que nous avions vues auparavant. Les combats continuent. Mossoul n'est pas encore entièrement libéré a priori, encore donc des poches de résistance. Ce que nous avons vu, ce sont donc eh bien des femmes et des enfants, peu d'hommes, mais qui fuient Mossoul et qui arrivent dans des camps de réfugiés. Et sur cette population de 6 millions, il y a 1,5 million de réfugiés. Donc ça change tout.
Comment se passe la prise en charge de ces déplacés ? Est-ce qu'il y a un semblant d'administration qui se met en place ?
Oui, il y a une administration. L'administration kurde est tout à fait performante dans le domaine. Et puis, il y a les Nations Unies qui sont là. Simplement, c'est qu'il y a 43 camps de réfugiés dans l'Irak, principalement dans la région de Dohuk, où nous sommes, et à côté de Mossoul. Et là, il y a des camps. Pour vous citer un camp, il y a 2 x 25 000, 50 000 personnes dans un camp. C'est donc une ville, comme une ville en France, de moyenne importance. Et il y a des camps qui sont plus modestes, de 1500, de 2000, de 15 000 personnes. Alors, certains sont sur une... C'est les Chabaks ou les Yézidis, mais la plupart du temps, c'est multiculturel et multi-ethnologique.
Les Chabaks et les Yézidis sont des communautés locales.
Communautés locales, ouais. Kurdes.
Vous dites Kurdes et ONU, ça veut dire que côté irakien, il n'y a absolument pas les moyens d'organiser, d'administrer des camps de réfugiés pour l'instant.
Je n'ai pas vu de camp qui soit organisé par les Irakiens.
Et la situation humanitaire, globalement ?
La situation humanitaire est sur le plan, je dirais, de World Food Programme, sur le plan de l'eau, sur le plan de l'hygiène, c'est correctement fait. Par contre, c'est bien de reconstruire les villes, puisqu'on va reconstruire Mossoul. Il y a déjà des plans. On reconstruit certaines régions qui ont été bombardées, y compris par nos avions. Il fallait le faire. Eh bien, ça va être reconstruit, mais les gens sont... il y a une déflagration morale. Il faut reconstruire les gens. C'est bien de reconstruire les ponts, de reconstruire des immeubles, mais ils sont tellement meurtris dans un stress post-traumatique, cette violence faite aux femmes, ces enfants soldats, tout ce que nous avons pu constater, et les témoignages se sont entrecoupés, c'est extrêmement fort, et surtout de ce côté-là, il n'y a rien de prévu.
Donc vous avez constaté, vous avez pu confirmer vous-même les accusations de crimes de guerre qui ont été mises en avant par certaines organisations internationales.
Oui.
Les viols,
oui,
sur les femmes, les enfants.
Oui. Alors les viols sur les femmes, avec les femmes qui, on a eu plusieurs témoignages très très émouvants, à la limite du supportable, de femmes qui ont été les Daesh est rentré donc à Shinga, et là ils ont mis les hommes d'un côté et les enfants derrière la maison, ils ont tué les hommes et les enfants et ils ont pris les femmes. Ils les ont emmenés donc à Mossoul, et à Mossoul, on leur a dit « Vous êtes sales, vous n'êtes pas musulmanes ». Et elles ont dit « Nous ne sommes pas musulmanes, mais nous voulons le devenir, ne nous violez pas ». Ces témoignages se sont recoupés. Et là, ils ont dit oui, et puis au bout de 2-3 mois, ils ont dit « Ben non, vous êtes toujours sales, donc on va vous violer ». Et donc le viol a été répété pendant 2 ans et demi, pour certaines femmes que nous avons vues, qui demandent une prise en charge psychologique. Et là, je dirais, c'est la double peine. La double peine parce qu'elles ont été violées, mais elles ne sont plus admises dans leur famille et leur communauté parce que, justement, elles ont servi d'esclaves sexuels pendant 2 ans et demi. Et ça, c'est dramatique. Alors, certaines sont mortes. On pense qu'il y a 3500 femmes qui sont revenues et qu'il y en a encore 1500 qui sont en main de Daesh, esclaves sexuels, ou qui sont mortes. Et ce sont des esclaves qui sont vendus au marché, à Mossoul, avec une étiquette et un prix. Et elles sont vendues et revendues. Celle que nous avons vue a été revendue 3 fois. Quand elle est sortie de Mossoul, elle a évidemment une tentative de suicide. Et dans le camp où nous sommes, il y a un taux de suicide qui n'est pas admissible. Et ça, je pense que ça, c'est les femmes. Mais les enfants, c'est un autre domaine. Ce sont des enfants soldats qui, bien entendu, ont été agressés sexuellement, dont un enfant Ahmed qui a 11 ans, que nous avons particulièrement suivi, et puis d'autres, hein, dans le camp où nous allons intervenir, il y en a 80 enfants qui ont appris à tuer et qui ont une violence à la fois d'agressivité, de comportement. Ils ont perdu leur langue, ils parlent d'arabe, parce qu'ils ne parlent plus donc le kurde, et ils sont pas admis dans la communauté des enfants, parce qu'ils sont trop violents, donc ils sont rejetés. Donc ils s'éloignent encore plus, donc ils s'isolent encore plus. Et ils ont tous les témoignages, le Concorde, ils ont incontinence urinaire, incontinence des selles. Ils sont dans un stress où ils s'isolent, ils fuient le camp pendant 2 jours, ils reviennent, ils se mettent dans un coin. Ils sortent pas du coin de la tente de réfugiés, du camp de réfugiés pendant 48 heures. Ils ne sont indifférents, là il n'y a plus de mer, mais indifférents à l'entourage, indifférents au jeu. Ils sont indifférents au sport, ils sont indifférents à tout. Ils sont dans une atonie psychomotrice et dans un stress, atonie pour certains d'entre eux, et un stress qui est catastrophique, et si ça continue, et si on ne prend pas en charge, on va en faire des psychopathes.
D'un mot, Alain Serrier, vous avez besoin de moyens pour votre organisation. Comment fait-on pour vous aider, en quelques mots?
Oui, nous avons besoin de moyens financiers, bien sûr, en sachant que tous les dons iront directement pour le Kurdistan. Iront donc dans ces camps de réfugiés, où nous allons démarrer une prise en charge psychologique avec des animateurs, avec des éducateurs sociaux, en tenant compte donc des Kurdes, et avec des médecins, pédopsychiatres et cliniciens.
Donc, je tape sur internet, douleur.org pour l'organisation Douleurs sans frontières. Merci beaucoup Alain Serrier d'être passé par notre studio aujourd'hui.